Aujourd'hui, nous fêtons le cœur immaculé de Marie, donc on a un évangile propre. Mais la première lecture, peut-être celle de la féerie, donc de Genèse 18, que je vais continuer, parce qu'il y a pas mal de choses assez curieuses dans cette lecture. Donc tout d'abord, il y a une faute assez grave. En tout cas dans la version que j'ai moi, qui est celle de Magnificat, là, que j'ai devant les yeux, ça a été corrigé par l'école biblique de Jérusalem il y a déjà une quinzaine d'années, je pense. Visiblement, la traduction liturgique n'est pas au courant de cette erreur. Donc on nous parle du chêne de Mambré, il n'y a pas de B. Il n'y a jamais eu de B. C'est le chêne de Mamré. Le verbe hébreu qui est derrière ce nom est le verbe amar. Amar veut dire parler. Le substantif dans les langues sémitiques se forme assez souvent avec un M devant le verbe. Et Mamré, ça veut dire parole. Donc il s'agit du chêne de la parole. Et pas du tout de membré ou autre ambre solaire arraché d'on ne sait où. Alors néanmoins, pour l'indulgence, quand on prononce très vite « mamré » et qu'on ne sait pas que ça se dit « mam » mais on le dit « man »,« membré », on a l'impression d'entendre un « b ». Bon, enfin ça fait 2000 ans quand même qu'il n'y a pas de « b », hein, entre parenthèses, voire plus de 2000 ans, mais bon. Donc c'est le chêne de la parole, c'est le chêne où Dieu vient prendre la parole et donner la parole. Ça éclaire absolument tout le passage. Et justement, nous avons donc des bizarreries là. Prenez simplement le texte pour voir les bizarreries. Pourquoi c'est important de voir les bizarreries? Eh bien parce que on peut se demander sérieusement si c'était volontaire et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on ne va pas trouver la réponse forcément, mais on aura la question. Ce qui veut dire que le jour où on trouvera la réponse, elle viendra sur une question qu'on s'était posée. Et du coup, on retiendra, on profitera de la réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Abraham voit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Ça va? Le concept est assez facile à comprendre. Donc près de lui, a priori, ça veut dire près de lui. Et il se met à courir à leur rencontre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de courir vers des gens qui sont près de vous? C'est curieux quand même. Ou alors ils n'étaient pas si près que ça. Enfin, il y a quelque chose de mystérieux là. Parce que si vous avez quelqu'un qui est près de vous, vous ne courez pas. Vous n'avez même pas le temps de courir tellement il est près. Donc il court à leur rencontre. Il les vit et court à leur rencontre. On a donc des personnes à la rencontre desquelles Abraham va. Il dit « Mon Seigneur ». Singulier. Alors on nous a dit qu'il y en avait plusieurs et ils sont devenus un. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Et tout à coup pluriel, permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous, vous laverez les pieds. Vous, vous étendrez. Vous reprendrez des forces. Vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu as dit. Donc il y a quand même un mystère là, c'est qu'il y en a trois, mais il ne parle qu'à un, mais il y en a plusieurs qui lui répondent. Bon, c'est évidemment une image trinitaire, hein. Il y a des études qui prétendent que ce n'est pas du tout trinitaire. Ouais, enfin la preuve du feu c'est quand ça brûle. Quand on nous dit qu'il y en a trois, mais qu'on s'adresse qu'à un, mais il y en a trois qui répondent. je voudrais pas faire, comment on appelle ça, de l'anachronisme, mais enfin, ça ressemble quand même vachement à quelque chose de trinitaire, au moins de trine. Trois unités, unité trine. Enfin bref, je ne sais pas très bien, mais c'est quand même assez fort, quoi. Et on nous dit que Abraham se hâta, qu'il prend vite, qu'il court, qu'il se hâte de le préparer. Donc vraiment, Abraham, il est en transpiration complète. Il n'arrête pas de courir, de se hâter, enfin, il part dans tous les sens. Et à côté de ça, nous avons trois hommes qui attendent, et qui vont attendre longtemps. Parce que choper un veau, le dépecer, le préparer, le cuire, faire lever les pains, les cuire, ça ne se fait pas en 5 minutes. On n'est pas obligé d'être surdoué de la cuisine pour s'en douter. Donc c'est assez intéressant, parce qu'en fait, il va à l'encontre du temps que ça va prendre. Vous ne pouvez pas faire cuire plus vite que le feu chauffe l'eau ou fait cuire la viande. Ce n'est pas possible. On ne pouvait pas à cette époque-là, en tout cas. Donc il y a quelque chose d'étonnant. Abraham est dans l'activisme en dehors du temps qui lui est imposé. Et par contre, très curieusement, ces trois personnages qui n'en sont qu'un prennent le temps d'attendre. Et du coup, tout finit bien, il leur apporte ce qu'il a préparé. Et ils se mettent à manger. C'est très bien. Et ils lui demandèrent, où est ta femme? Il répond, elle est dans la tente. En deux mots. Enfin, les deux sont dans deux mots, mais dans la tente. Très bien. Et à ce moment-là, on a encore une curiosité, le voyageur reprit. Donc, on n'est plus, il y en a trois qui ont posé la question, et il n'y en a qu'un qui reprend. C'est très mystérieux. Hein. Et alors, c'est un voyageur, un viator. Le viator, le voyageur, c'est l'image de l'être humain sur Terre, qui est en chemin. Est-ce qu'on aurait là une annonce, par le vocabulaire, d'une incarnation? Quelqu'un qui va devenir, parmi ces trois, quelqu'un qui parle à l'homme directement et qui vient parmi les hommes. Je reviendrai chez toi, donc il n'y en a qu'un. Et puis Sarah écoutait derrière. Très bien. Et Sarah se dit, c'est bien comme idée, mais enfin, ça ne va pas être simple, quoi. Donc, et on a l'histoire du verbe rire, qui est un jeu de mots, je crois me souvenir, avec le prénom de Sarah. Et là, au moment où il va y avoir ce questionnement au sujet de Sarah, c'est pas sur elle que je vais m'arrêter. On entend cette chose étonnante. Le Seigneur dit, Dieu dit à Abraham. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Donc ces trois hommes, c'est clairement Dieu. Et vous trouvez des gens qui vous diront non, c'est pas trinitaire. Ouais, bien sûr. Ben, le vocabulaire est quand même assez impressionnant. Hein. Donc voilà. Pour nous, ça peut nous parler, nous dire, bon, est-ce que je vois Dieu qui vient à ma rencontre? Est-ce que je cours vers lui? Est-ce qu'il est... Il est tout près, mais je cours vers lui parce qu'en fait, il faut que je voyage vers lui. Lui-même vient à ma rencontre. Vous voyez, ça pose un certain nombre de questions. Est-ce que je laisse Dieu venir à ma rencontre? Est-ce que je me rends compte qu'il est venu à ma rencontre? Et est-ce que je réponds en courant vers lui? C'est une vraie question. Hein. Et puis, ça finit avec quelque chose d'assez étonnant. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Une autre traduction donnait « Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu ?» De la part de Dieu. On trouve ça dans l'Annonciation, hein. Aucune parole que Dieu dit ne reste sans effet. Alors en français, on traduit avec une stupidité congénitale, rien n'est impossible à Dieu. Bah, s'il y a des choses impossibles à Dieu, désolé. Dieu ne peut pas faire que vous n'existiez pas puisque vous existez. S'il voulait que vous n'existiez pas, il voudrait en même temps que vous ayez été créé et que vous n'existiez pas, ce qui est absurde, donc c'est impossible. Donc rien n'est impossible à Dieu, c'est débile, c'est faux, et il faudrait cesser ces imbécilités qui font du tort hein, à la foi. Mais là, en fait, on a, y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Donc, je trouve un écho assez beau avec l'Annonciation. Aucune parole que Dieu dit ne reste sans effet. C'est très exactement ce qui se passe ici. Dieu a dit, Sarah en aura un enfant, dans un an, Sarah a un enfant. Et ça finit par le Seigneur répliqua. Donc vous voyez, toujours cette rencontre de Dieu vers Abraham et sa femme. Donc ça nous parle de notre rencontre avec Dieu. Est-ce que nous nous laissons rencontrer ? Est-ce que nous croyons qu'il est possible que Dieu s'engage dans nos vies et fasse des choses merveilleuses ? Est-ce que nous lui laissons les commandes ? Est-ce que nous les laissons s'engager dans notre vie ? Ou bien est-ce qu'on a décidé d'avance que non ? Non, pas moi. Pas moi, et puis il répond pas à ce que je lui dis, donc. Bon, c'est des vraies questions hein, qu'on peut se poser, ça. Et alors ça nous amène donc sur l'évangile de Luc, où il est question d'un voyage. Vous voyez, c'est amusant. Il y a un voyage, il y a une confiance en Jésus, puisqu'ils repartent après une journée de fête. Là. Ils repartent et ils font confiance. Et Jésus n'est pas là où on croit qu'il est. C'est tout à fait intéressant pour nous. Jésus n'est pas là où on croit qu'il est. Vous voyez, même la Vierge Marie ne savait pas où était Jésus. Avouez que ce n'est pas banal quand même. Et Jésus nous dit, je dois être chez mon Père. Il écoute, il répond. Nous apprenons dans ce texte que Marie et Joseph ont souffert pour chercher Jésus. Et nous, souvent, nous trouvons que Dieu répond pas assez vite, ce que je disais tout de suite, et que y en a marre, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu as souffert pour chercher Jésus ? Ou bien est-ce que tu exiges qu'il réponde tout de suite ? Même Marie et Joseph ont dû souffrir. Et Jésus nous dit, je suis chez mon Père. Alors, c'est assez bouleversant, hein, parce que dans le monde actuel, dans la culture occidentale, pour qu'un garçon, par exemple, devienne adulte, il faut qu'il ait quitté la maison de son père. Je caricature un peu. Hein. Et Jésus n'a jamais quitté la maison de son père. C'est drôle quand même. Jésus, il est toujours resté dans une relation d'une très grande intimité avec son père. Ce qui montre que la chose n'est pas si évidente que ça. Hein. Alors c'est vrai que dans l'écriture, il y a écrit « l'homme quittera son père et sa mère ». Pour être avec son épouse, c'est indéniable. Et Jésus ne quitte pas son père. Et ça ne l'empêche pas de préparer son épouse, qui est l'Église. Ça, c'est assez mystérieux quand même, hein, de penser à ça. Eh bien, tout ça, nous savons que Marie gardait tout ça dans son cœur, tous ces mystères. C'est pour ça que elle peut nous éclairer parce qu'elle elle a vécu cette recherche de Jésus, elle est allée à sa rencontre, elle a couru vers lui. Vous voyez, il y a quelque chose d'abrahamique là. Hein. Jésus est devant eux, mais ils ne le voient pas. Alors ils courent vers lui. Comment ça, vous me cherchiez ? Vous savez bien où je suis. Voilà, tout ça, ça peut alimenter un peu notre prière, nous disant, bon, Jésus est devant moi, et est-ce que je le vois, ou est-ce que je cours à côté ? Est-ce que je crois qu'il fait quelque chose pour moi? Non seulement qu'il veut, mais qu'il le fait, qu'il l'accomplit aujourd'hui, qu'il me révèle aujourd'hui quelque chose de sa présence, à travers précisément, ou par l'intermédiaire de ce cœur immaculé de Marie dans lequel nous pouvons nous retrouver et écouter Marie nous parler du Seigneur et nous parler de ce qu'elle a dû faire, de ce qu'elle a recherché, des découvertes qu'elle a faites, etc. C'est aussi une bonne occasion donc, pour être avec cette femme que Jésus nous a donnée pour mère au pied de la croix. Et cette femme, ce sont les dernières paroles, hein, c'est la dernière parole de Marie. Hein. Pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. Dernière parole de Marie que nous connaissions dans les évangiles, c'est Luc qui nous les donne. Il n'y en a pas d'autres après. Ça se médite, ça aussi.